Bonjour et bienvenue dans l'émission Les Voix Paysannes, réalisée par l'ADR 82. Aujourd'hui, nous écoutons l'épisode 14, Transmettre autrement, la transmission restructuration comme solution pour installer davantage de paysans et paysannes. Cet épisode est le deuxième de la mini-série de 3 épisodes portant sur le sujet de la restructuration et de la diversification des fermes à transmettre. La restructuration peut se définir comme la réorientation de la conduite de l'activité, de la production principale ou de l'usage des terres et des bâtiments dans une ferme. Elle permet d'augmenter deux choses essentielles. Tout d'abord, le nombre d'actifs agricoles et ensuite, elle permet d'augmenter le nombre de fermes en agriculture durable, paysanne et respectueuse de l'environnement. Face au faible renouvellement des actifs agricoles en France, la restructuration apparaît comme une solution pour permettre de débloquer les freins à l'installation. Du côté des porteurs de projets, elle peut pallier au coût élevé du foncier. Du côté des cédants, elle peut permettre de passer outre des blocages liés à la difficulté de transmettre une ferme qui représente souvent l'œuvre de toute une vie. Elle permet aussi d'éviter que les fermes ne partent à l'agrandissement. Aujourd'hui, pour le deuxième épisode de cette mini-série, nous écoutons le témoignage de Serge Magnac, arboriculteur à la retraite sur la commune de Moissac. Serge a transmis sa ferme à 3 personnes différentes. Tout d'abord, sa femme, qui a repris une partie des vignes et des prunes. Ensuite, un jeune agriculteur qui a repris une partie des vignes et des pommes qu'il produit en bio et commercialise en vente directe. Et enfin, un couple qui a repris la 3e part des pommiers. Le nombre d'actifs agricoles est donc passé de 1 à 3 et la plupart des parcelles de Serge sont restées en bio. La production de fruits continue ainsi de vivre sur la ferme de Serge. Alors bonjour Serge, merci de me recevoir. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ?
Oui. Alors, Serge Magnac, 63 ans. Je suis installé depuis 1984, agriculteur, sur une petite ferme dans les coteaux de Moissac. Au départ, il y avait, comme chez tout le monde, 6 vaches, du chasselas de Moissac, parce que c'était très important d'avoir du chasselas de Moissac à Moissac. Des pruniers, puisque ça va avec, dans les fonds de vigne. Et voilà. Et donc, moi, je me suis installé en 1984. On a fait un EPI, une étude d'installation, avec M. Rive de la DPSPA, je pense que c'était à l'époque, qui disait que financièrement, ce n'était pas viable de, sur une petite exploitation de 13 hectares avec des vaches et avec 2 couples, quoi, avec 2 familles. Donc j'ai acheté un petit peu de terre un peu plus loin, sur lequel j'ai planté, et puis après, voilà, on a fait un GAEC. On a vendu les vaches, et il n'y avait sur l'exploitation que... Alors, à l'époque, pêche et nectarine, raisin de table, et quand je me suis installé, j'ai planté un petit peu de pommes dans les bas-fonds en bas.
Voilà. Donc vous avez travaillé, vous avez repris la ferme de vos parents et voilà. Vous êtes associé avec eux.
Voilà. Et mon père était adhérent à la coopérative fruitière Sancam à l'époque à Moissac, parce que c'était plus intéressant au niveau des prix et moins contraignant au niveau commercial. À l'époque, les prix étaient supérieurs au marché, donc il a adhéré à cette coopérative agricole. Donc on produisait, on conditionnait le chasselas à la maison, parce que ça c'était obligatoire de conditionner sur la ferme. Et les pêches et nectarines et les prunes étaient livrées comme ça en vrac, je pense, à la coopérative. Après, quand j'ai planté des pêches et nectarines, le temps que ça arrive en production, le marché était déjà un petit peu plus saturé et les prix donnés par la coopérative étaient des fois négatif. C'est-à-dire qu'il fallait que je rembourse de l'argent à la coopérative parce que ça avait coûté plus cher. Mais bon, voilà, j'ai trouvé que le fonctionnement n'était pas à mon goût et je suis parti de la coopérative en 1989. Et là, j'ai travaillé avec j'ai commercialisé avec des grossistes sur Moissac.
Est-ce que vous êtes en bio ou pas?
Alors en bio depuis 2017.
Vous êtes aujourd'hui à la retraite, vous avez cédé votre ferme.
Oui.
Quand est-ce que vous avez cédé, à qui? Et est-ce que vous pouvez m'expliquer tout le processus que ça a été de céder votre ferme?
Alors le processus, j'ai contacté, comme j'étais tout en bio, j'ai contacté l'ADR. On a pris rendez-vous, elle l'a proposé à droite et à gauche, et puis après j'en ai parlé à droite et à gauche. J'ai dit à plusieurs personnes que je prenais ma retraite, donc voilà. Et là, j'ai trouvé un gars qui reprend beaucoup de vergers, qui a ses deux fils qui s'installent, et qui m'a dit qu'il allait reprendre ça en bio. Donc il était intéressé par les pommiers, parce que j'avais une bonne parcelle de pommiers Chanteclerc. Et ça, il était intéressé par ça. Donc il m'a repris les pommiers et il exploite maintenant en propriété, en fermage, 100 hectares de pommiers au moins, je crois. Et alors il en avait une partie en bio, il en a encore, je pense, une partie en bio, mais comme tout le monde, ils ont déconventionné des parcelles bio. Donc il me restait les prunes et les vignes. Alors les pruniers, j'avais pas mal de variétés américaines ou japonaises qui sont difficiles qui sont assez compliquées de conduire en bio, qui ont été affectées par le CA et tout, donc je les ai coupées. Donc il me restait les vignes et mon épouse actuelle, qui est beaucoup plus jeune que moi, s'est installée et a repris les vignes et les prunes à la maison. Mais elle ne voulait pas toutes ces vignes. Et là, j'ai le technicien de l'appellation du chasseur de Moissac qui m'a dit qu'un jeune cherchait des parcelles en fermage. Il avait acheté du terrain, mais il lui fallait une rentrée d'argent rapide. Donc, il cherchait des vignes en fermage. Donc là, j'ai recédé. On a ressorti les vignes du fermage, et j'ai recédé les vignes et une partie des pommes, tout le versant nord, en fait, qui est alimenté par une borne d'irrigation, par celle-ci. C'est Geoffrey Arnaud qui a repris ça.
Aujourd'hui, donc vous disiez, il y a une personne qui continue les pommiers, votre épouse qui continue une partie des vignes, et ensuite un autre jeune qui a récupéré la troisième partie.
Oui, 1,20 hectare de prunes pour mon épouse, 0,80 ha de vignes en bio, ça on le conserve en bio. Geoffrey qui reprend ici les prunes, 1,10 hectare de pommes et 2 hectares de vignes, lui il repasse ses pommes en bio et tout le reste est en bio. Donc lui Geoffrey, le jeune qui s'installe, il garde tout en bio. Il a envie de faire de la vente chez lui, parce qu'il va faire du melon, de la fraise, de beaucoup de choses, de légumes, des pêches, il veut faire des pêches, donc il va vendre en direct à la maison, faire des marchés aussi, je crois. Mon épouse, elle livre en gros à un grossiste qui fait que du bio, qui s'appelle Aux Saveurs du Quercy.
Donc Geoffrey, il diversifie un peu la production,
oui.
Finalement.
Oui. Il y a même des cochons, des petits cochons qui va lâcher dans les vignes pour manger l'herbe. Mm. Moi, je lui file des coups de main, je lui prête du matériel, parce que c'est compliqué de s'installer. La banque ne prête pas grand-chose. Il a acheté un tracteur, un peu de matériel et puis c'est tout. Après, il va faire des prêts pour les plantations, mais c'est pas. Il roule pas sur l'or. Hein. Il a un peu de chômage et il fait pompier la nuit. Il va faire des nuits aussi. Il est motivé. Il était ouvrier agricole, je crois, chez un membre de sa famille dans la Loire, chez un producteur de fruits. Il était producteur de fruits qui commercialisait tout à la maison aussi, je crois, là-bas. Et là-bas, le foncier est très très cher. Donc il est venu s'installer ici.
Donc finalement, au bout du compte, aujourd'hui, vous êtes satisfait avec la transmission que vous avez faite?
Oui, ça va, ouais. Oui, j'ai de la chance. Moi je crois que le. De toute façon, c'est obligatoire de diversifier, je pense. Je pense. C'est trop risqué aujourd'hui avec le changement climatique d'avoir une catastrophe sur une. Si on est en monoculture, voilà, on fait comment après? C'est compliqué. Mais diversification, un peu d'élevage. Pour le bio, je pense que c'est primordial d'avoir un peu d'animaux pour avoir du fumier, de la matière organique et fertilisée, faire un peu de tout et livrer des magasins de producteurs ou des clients directement. Moi, je pense que c'est une bonne solution. Les gens avaient l'air d'avoir compris pendant le Covid, les consommateurs, mais ils ont oublié qu'il fallait manger local et sainement. Le premier jour du Covid, au serveur du Quercy me dit Serge, tu sais que tu as beaucoup de pommes dans le frigo, dans notre frigo là. Il faudrait que tu emballes pas mal parce que j'ai beaucoup de commandes. J'ai dit, mais on est confinés. Et on a bossé quoi. On a mis des masques, les filles étaient un peu inquiètes, tout le monde était un peu inquiet, on ne savait pas trop. Et puis on a bossé comme des fous en fait.
Et après, il y a eu une rechute après le Covid.
Et après ça, après 2 ans après le Covid, c'était tous ces jeunes vergers qui ont été passés en bio, qui se sont mis à produire, et de la pomme bio, il y en avait partout. Les prix ont baissé. Et donc les gens se sont mis à déconventionner le bio parce qu'en conventionnel, les tonnages sont plus importants. Donc si le prix est le même, c'est plus rentable de produire en conventionnel.
Tout de suite, une petite coupure musicale et nous reprendrons la suite de l'épisode juste après pour parler des enjeux de la transmission des fermes en arboriculture sur le Tarn-et-Garonne, production qui représente une part majeure de l'activité agricole du département. Nous aborderons également la question de l'impact du changement climatique sur la production de fruits.
Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle fuyait ravie et le vent me disait. Elle est bien trop jolie, et toi je te connais. L'aimer toute une vie, tu ne pourras jamais. Mais elle est partie, c'est bête mais c'est vrai. Elle était si jolie, je n'oublierai. Elle était si jolie,
Vous venez d'écouter « Elle était si jolie » de Johanna Baget, accompagnée par la fanfare du Losange. Nous sommes de retour dans l'émission « Les voix paysannes » de l'ADR 82, épisode 14, « Transmettre autrement la transmission restructuration comme solution pour installer davantage de paysans et paysannes ». Vous êtes dans le deuxième épisode de cette mini-série de 3 épisodes qui porte sur la restructuration des fermes et qui tente de trouver des clés pour mieux transmettre nos fermes à la prochaine génération. Le département du Tarn-et-Garonne est caractérisé par un niveau élevé de spécialisation. Parmi les fermes du département, 2/3 sont spécialisées en production végétale. L'arboriculture fruitière arrive en effet en 2e position sur le département après les grandes cultures, avec plus de 720 exploitations. Le verger du Tarn-et-Garonne occupe, lui, 6% de la surface agricole utile, ce qui place le département au 5e rang des départements métropolitains pour les capacités de production fruitière et au 1er rang pour la pomme. J'ai demandé à Serge ce qu'il observait de la tendance de reprise agricole dans les fermes fruitières et s'il avait eu des difficultés à transmettre la sienne.
Je me doutais que ça allait être très compliqué puisqu'il y a très peu de repreneurs en fruits. Beaucoup de jeunes s'installent en maraîchage, permaculture, parce que c'est beaucoup moins lourd en investissement. Mais en fruits, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'installent en fruits, pas beaucoup de jeunes courageux. Et je ne savais pas du tout comment ça allait se goupiller, en fait. Je me disais que si je trouvais personne, j'allais tout arracher et puis le laisser comme ça, quoi. Puisque pour percevoir la retraite, il faut plus avoir de terre à son nom. Il ne faut plus avoir plus exploiter de terre, quoi, pour la MSA. Donc, j'ai de la chance parce que tout le monde n'arrive pas à caser l'exploitation, quoi. Donc ça, c'est pas mal pour l'instant. Alors, c'est de la location. Alors, c'est eux qui ont le pouvoir quelque part. Ils loueront le temps que ça leur convient, quoi. Bon, après, on verra bien ce que ça deviendra. Je pense que ça va retourner à la nature. Ça va redevenir des forêts.
Ça vous aurait déçu de ne pas avoir trouvé de repreneur et d'avoir du tout rasé? Ou c'est ça vraiment, un moment, ça a été question ou vous avez quand même toujours eu espoir?
Oui, ça m'aurait embêté parce qu'il y a des plantations qui sont quand même en bon état, qui sont quand même sympas. Avec différentes variétés résistantes à la tavelure, ça fait toujours un peu de peine de tout arracher, tout raser, quoi. Mais bon, si ça devait arriver, il faut bien se plier à la réglementation. Il ne faut plus rien avoir, donc on arrache.
Pourquoi vous pensez qu'il y a de moins en moins de jeunes qui reprennent en fruitier?
Parce que c'est trop. À l'achat, c'est trop cher. C'est pointu, peut-être. Les jeunes, ils ne sont pas tournés vers les fruits. Les jeunes, ils pensent que c'est plus facile de faire du légume. Si on se trompe sur une culture, on peut en faire une autre, c'est rapide. Alors qu'une production fruitière, c'est annuel. Si vous vous trompez, si vous plantez, si c'est pas bon sur une année, ben, il faut attendre la suivante, quoi. Il faut avoir plusieurs variétés, plusieurs espèces pour pouvoir passer l'année, quoi. C'est peut-être au niveau technique, c'est peut-être un peu plus compliqué. Il y a des concurrences étrangères aussi en fruits, hein, c'est compliqué. Enfin, si je m'installais aujourd'hui, si j'étais jeune et que je m'installe aujourd'hui, je ferais des marchés et je serais et avec des copains, on ferait un magasin de producteurs. Je pense qu'il faut faire ça.
De la vente directe.
Oui. J'ai vendu quelques... À la fin de ma carrière, là, pendant 2-3 ans, et pendant le Covid, j'ai vendu des pommes à un magasin de producteurs. J'ai jamais été aussi bien payé de ma vie, quoi. Et les consommateurs étaient contents, et les producteurs aussi. Et humainement aussi, je pense que c'est important. Moi, j'ai jamais eu affaire à des clients. Et ça, c'est... toujours à des grossistes, hein. Des grossistes qui te disent « Oh, je ne sais pas trop ce que je vais faire de tes prunes, il y en a beaucoup cette année, je ne sais pas combien je vais te donner. » Alors que quand on est en contact direct avec le consommateur, il y a un échange. Il y a un échange. On sait ce qu'ils attendent et on peut peut-être adapter la production en fonction de ce qu'ils souhaitent eux aussi. Et c'est ça qui est sympa. Il y a un copain qui fait ça, qui fait des marchés depuis 17 ans là. Il me prenait les pommes, il me dit c'est super tes pommes, Serge. Parce qu'il a... c'est en retour direct quoi. C'est des clients amis qu'il a.
Et en fruitier, ça c'est quelque chose qui se fait peu, la vente directe ?
Ça se fait chez nous, sur les marchés. Il y a des producteurs qui vont vendre sur les marchés. Mais comme on est dans une région à fort potentiel de production de fruits, il y en a partout. Tout le monde connaît quelqu'un qui produit des fruits, ou tout le monde travaille chez un producteur de fruits ou dans une station fruitière. Enfin voilà, on n'est pas en manque de fruits ici. Voilà. C'est impossible, tout le monde ne peut pas vivre en faisant les marchés. Par contre, faire ça dans une autre région où il n'y a pas de fruits, ça c'est intéressant.
L'arboriculture est un type de production fortement impacté par le changement climatique. Les fortes chaleurs en été, les sécheresses, les gels tardifs sont autant d'événements climatiques de plus en plus récurrents qui impactent les rendements. J'ai donc demandé à Serge de me parler de l'impact du changement climatique sur sa ferme. Sa maman, agricultrice sur la ferme avant lui, a également témoigné sur les changements observés entre la ferme à son époque et la ferme aujourd'hui.
Oui, il y a 3 ans, la météo ressemblait un peu à celle de cette année, c'est-à-dire des températures au-dessus de 25 degrés au mois de mars. Et après, il y a eu quelques jours de gelée au mois d'avril. Quoi.
Il suffit que de matinée.
Oui, deux jours.
Mais ça avait fait moins 5 même.
Oui. Et après, ces grosses chaleurs l'été. On avait connu une semaine à 40 degrés là, en 2003. Depuis, on n'avait pas revu ça. Il y a 20 ans qu'on n'avait pas vu ça. Et là, on a eu 2 années avec des semaines à plus de 40. C'est très chaud, c'est très très chaud. Ah, ben, il peut y avoir des fruits brûlés, Oui, il y a des raisins brûlés, des pommes brûlées, même des prunes brûlées, oui. Et puis les végétaux se bloquent, ils ne poussent plus, c'est compliqué. On peut rien faire en fait, hein. on subit. Si ça devient encore plus chaud, encore plus sec, ça va être compliqué, ça va diminuer les rendements, ça va diminuer les...
Et le manque d'eau.
La taille des grains, des fruits, de tout, le manque d'eau. Depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, moi je fais de l'irrigation enterrée, en goutte à goutte. Et avec des sondes, des capteurs, j'ai des courbes qui me donnent la disponibilité de l'eau dans le sol. Et moi, j'utilise 50% d'eau de moins que les autres.
Et vous, du coup, vous voyez des différences entre quand vous, avant et aujourd'hui ?
Ah ben oui.
Comment vous travailliez avant ?
C'était principalement les vignes, et là, du raisin grillé, il y en a tous les ans, alors qu'il n'y en avait pas. Très très peu, où les vignes exposées, vraiment au soleil.
Il faisait moins chaud.
Il faisait moins chaud aussi.
Il y avait plus d'orages dans l'été aussi, peut-être.
Ça aussi.
Et vous aviez un système plus diversifié, non ? À l'époque, vous disiez que vous aviez un peu de vaches.
Oui, il y avait 13 hectares.
Il n'y avait que 13 hectares. 13 hectares en coteaux. Et...
Il y avait des vaches, il y avait...
Ou des vaches, il y en a eu combien de temps ?
6, 8.
Pas longtemps.
Et comment ça, pas longtemps ? Tu as toujours eu des vaches ici ?
Non.
Non ?
Non.
Il n'y en avait pas au début ?
Non.
Ah bon ?
Non, c'était qu'après les années de grêle, là, qu'on avait essayé d'avoir quelques vaches pour avoir...
Ah, d'accord.
Quelques veaux
à planter. Je croyais qu'il y en avait toujours eu.
Non, non. Ah, il n'y avait qu'un cheval pour travailler.
D'accord.
Il
n'y
avait pas de tracteur même.
Le sujet du renouvellement des générations agricoles est un enjeu crucial dans le Tarn-et-Garonne et en France de manière générale. Dans le département, le taux de renouvellement des fermes est de seulement 51% en 2023. Cela veut dire qu'une ferme sur deux n'est pas reprise. Afin de transmettre nos fermes, la restructuration apparaît comme une solution. Il s'agit de la réorientation de la conduite de l'activité, de la production principale ou de l'usage des terres et des bâtiments. Elle permet de défaire quelques blocages qui persistent du côté des cédants comme du côté des repreneurs. Dans le prochain épisode et dernier de cette mini-série, nous partirons à la rencontre de Joëlle Desramonts, ancienne éleveuse de vaches laitières installée à Montpezat de Quercy. Nous rencontrerons également Anaïs Huard, une de ses repreneuses, installée en tant que maraîchère sur une partie des terres de Joëlle. Comme Serge Magnac, Joëlle a également cédé sa ferme à trois porteurs de projets différents, sans qu'aucun ne reprenne l'atelier d'élevage bovin qu'elle occupait. La ferme et les outils agricoles ont été adaptés à d'autres productions, comme la salle de traite, par exemple, qui est devenue une zone de stockage et de nettoyage des légumes pour Anaïs, la maraîchère. Nous vous rappelons que nous recevrons le sociologue et professeur François Purseigle à La Française le mardi 11 juin 2024 pour une conférence sur son livre « Une agriculture sans agriculteur ». Cette conférence est organisée en collaboration entre l'ADR 82 et le projet alimentaire territorial du pays de La Française. Elle aura lieu au restaurant L'Art du Temps à La Française. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site ou sur notre page Facebook ADR du Tarn-et-Garonne. Retrouvez notre émission tous les premiers mercredis du mois sur CFM Radio à 19h et en rediffusion le dimanche suivant à 20h ou sur le site de l'ADR 82. Retrouvez aussi toutes les informations sur l'accompagnement à l'installation et à la transmission sur notre site internet www.agriculturepaysanne.org/ADR82. Merci pour votre écoute et on se retrouve le mois prochain sur l'antenne de CFM Radio. À bientôt.